RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Thomas Porcher, professeur d'économie, et Lina Dumont, intervenante sociale, et nous sommes avec Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée et président du Hier Football Club. On va parler du crack maintenant.
RMC, les grandes gueules.
Il y a des morts à chaque saison, et j'ai trop de rêves en prison. On manque pas d'ambition.
On a décidé dans les GG de vous parler du crack parce qu'on a découvert là au fil des jours. Et si on a beaucoup focalisé sur le crack dans l'est de Paris, dans le nord de Paris, on a parlé de la colline du crack, du jardin des Halles, des riverains excédés. Bah, le crack et son extension, c'est pas une exclusivité parisienne.
Non, c'est le nouveau fléau des centres-villes, et pas seulement à Paris, Bordeaux, Rennes, Compiègne, Niort, Mâcon, Orléans. Depuis maintenant plusieurs mois, et pour certaines villes plusieurs années, eh bien, il y a une augmentation de la consommation de crack. Et alors, ce qui va avec le crack, c'est un problème de santé, bien entendu, parce que c'est une drogue, et Lina en parlera mieux que moi, qui rend très dépendant. Et on a du mal à sortir les craqueurs, les craqueuses de cette dépendance. Mais c'est aussi, bien sûr, un problème d'insécurité, de violence, parce que pour se payer leur dose, les craqueurs, les craqueuses n'hésitent pas à s'en prendre aux riverains, aux gens qui passent par là. Donc, c'est au cœur de toutes les incivilités et des problèmes de sécurité. Cette drogue du pauvre fait des ravages dans toute la France. Alors comment faire pour abattre justement cette drogue et essayer d'endiguer cette progression?
Alors, il faut expliquer déjà ce que c'est que le crack. C'est de la cocaïne avec de l'ammoniaque ou du bicarbonate,
oui.
C'est ça?
Voilà, c'est ça, le crack, c'est ça.
Tu le fais brûler.
Tu le fais brûler dans du bicarbonate.
Ça vient des États-Unis, on dit crack parce que ça...
Ça craquelle.
Ça craquelle, c'est
voilà.
Pour ça.
Et c'est pas très cher.
Alors, c'est pas très cher justement parce que c'est de la cocaïne qui a été coupée avec plein de produits. Le crack, c'est j'ai envie de dire, c'est la coke du pauvre, mais celle qu'on sniffe, c'est la drogue du riche. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et en fait,
je rappelle que tu as été
oui,
crack,
moi j'y étais.
Pendant combien de temps?
4-5 ans, et j'en ai bavé pour arrêter, je peux vous dire. Mais en fait, la problématique qui existe par rapport au crack. Bon, dans les autres villes, il n'y a pas de camp comme à Paris. Et d'ailleurs, ce que j'ai regretté, c'est que Monsieur Darmanin, d'ailleurs j'adorerais qu'il vienne aux grandes gueules discuter de ça avec moi, c'est qu'il a fait croire à tout le monde que Porte de la Villette, Porte de la Pantin, Porte d'Aubervilliers, c'était réglé. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'ils sont tous sous le pont du périph à Porte de la Chapelle. Et je peux vous assurer qu'à Porte de la Chapelle, ça chie. Voilà. Et qu'est-ce qui gêne dans le crack, au fond? Parce que la plupart sont des sans-abri. Ceux, parce qu'il y a aussi 15% qui, eux, ont un logement. Ceux-là, ils ne gênent pas les gens.
Ils sont chez eux, oui.
Et voilà, ils sont chez eux. Et en fait, qu'est-ce qui gêne? C'est que tous ces sans-abri qui prennent du crack, c'est vrai, ils foutent le bordel. Isère, ils deviennent violents. Moi, vous venez dans mon quartier, alors là, il y a ce qu'il faut. Hein. Bon, c'est vrai que par contre, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de police. Mais comme je vous le dis, les CRS, je suis allé les voir. Les CRS, ils m'ont dit, nous, on protège les commerçants et les riverains. Bon, il y a quelqu'un qui fume une pipe. Alors apparemment, en France, on peut fumer du crack, hein. Peinard, hein. Par contre, vous buvez une bouteille, une canette d'alcool dans la rue, vous avez une amende. Non mais, il y a un truc qui tourne pas rond.
On laisse faire.
On laisse faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la problématique, alors évidemment, il y a ce qu'on appelle les salles à moindre risque.
Les salles de shoot.
Voilà, alors évidemment, moi je travaille avec tous ces gens-là, mais il y a toujours une problématique, c'est que il y a toujours la problématique du dealer, puisque ces personnes qui vont dans des salles de soins, il faut qu'ils aient le produit. Pour avoir le produit, il faut avoir le dealer. Donc, en fait, c'est une histoire sans fin.
Donc,
quoi.
On favorise quand même
la
délinquance.
Pour moi, oui. Et alors, par contre, le seul truc qui est bien à travers ces salles de soins, évidemment, parce qu'il faut dire la vérité, c'est surtout des gens qui prennent de l'héroïne. Il y a très peu de craqueurs dans.
Mais pardon, mais le crack, comment on en sort, en fait? Parce qu'on voit bien qu'il faudrait à la fois soigner ces gens-là. Et puis ensuite, on réglerait
Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, on a le plus grand professeur qui a travaillé le premier sur le crack. Parce que d'où vient le crack en France? À la base, c'est des Antilles. Mais comme aux Antilles, les Antilles en France, enfin en métropole, on s'en fout. Parce que je peux vous assurer, moi, qui ai eu la chance d'aller aux Antilles, grâce au professeur Charles-Nicolas Aimé. Je vous dis, c'est lui qui a créé le centre Pierre-Nicole. Parce que moi, j'ai connu le crack à l'arrivée dans les années 90.
C'est lui qui t'a sorti du crack?
Et c'est lui qui m'a soigné, qui a créé le centre Pierre-Nicole. Bon, à l'époque, il était psychiatre. Maintenant, il est devenu un grand professeur. Il travaille dans le monde entier. Et bien, en France, même les politiques, moi, je m'en fous que ce soit Macron, Pécresse, mais personne ne fait appel à lui. Alors que c'est le premier, et c'est un pro. Alors moi, évidemment, je l'ai auditionné à la région dans le cadre de mon travail sur le crack. Mais voyez, on a des vraies tronches. Et vous savez, je l'ai auditionné et je lui ai parlé des salles de consommation là, oui, à moindre risque. Et lui, il est même pas d'accord. Il a dit, quand on a pris du crack, qu'on veut arrêter, il ne faut plus jamais en prendre.
Comment tu t'en es sorti?
Eh ben voilà, moi je m'en suis sorti, parce que faut savoir que le crack, alors je suis pas un psychiatre, en parlerait mieux que moi. En fait, il y a une espèce de sérotonine dans votre tête, là, qui vous fait un flash, vous croyez puissant, vous êtes capable de tout. Mais faut savoir que dans les antidépresseurs, que je prends toujours actuellement, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il n'y a pas honte à se faire soigner. En fait, dans les antidépresseurs, il y a aussi de la sérotonine. On peut se soigner avec des antidépresseurs. Alors, évidemment.
Après, il y a une problématique, que ces gens-là sont aussi des SDF. C'est-à-dire
mais
que,
c'est, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je travaille pour le logement d'abord.
Oh, mais moi, ce que je comprends, c'est pourquoi ça s'étend.
Attends.
Pourquoi le crack s'étend aujourd'hui dans plein de villes et même dans des villes moyennes, a priori, où tu ne t'attends pas à le trouver?
D'abord, c'est pas cher.
Il y a Orléans, tu vois, Perpignan.
Il y a des gens qui prennent. Moi, j'excuse rien, j'essaie juste de me trouver des raisons, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui prennent des drogues pour oublier leur mort, et il y a des gens qui prennent des drogues pour oublier leur vie, quoi.
Leurs conditions de vie.
C'est aussi simple que ça, et que c'est la condition qui fait que le crack étant une drogue pas chère, dangereuse, parce qu'apparemment il y a une accoutumance immédiate, quasi.
Pas immédiate, faut pas exagérer, hein. Ça c'est les journalistes qui aiment bien dire ça, mais on n'est pas addict dès la première prise, on est addict au fur et à mesure.
Quand tu as besoin d'échapper là où tu es, c'est que il y a un problème. Et
non,
là,
mais
je crois qu'il y a une situation de ces personnes qui fait
que au Paris, faut dire la vérité, moi, quand il y a quelque chose de bien, en fait, quand même, à Paris, ils font un sacré boulot. Et du coup, les dealers, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se déplacent.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a quand même du boulot. Je peux pas le nier.
Donc les dealers vont en province.
Ben oui, ils se déplacent. Ils disent, oh là là, Paris, ça commence à craindre. En plus, avec le Grand Paris, les Jeux Olympiques, on commence à... Quand même, Darmanin, il a mis des moyens quand même. Je peux pas dire le contraire.
Que ce soit à Paris ou pas, on s'en fout. Hein, c'est le...
Oui, oui. Mais si tu veux, ben du coup, ils se déplacent. Voilà.
Thomas Porcher.
Ouais, j'y avais un film, enfin une fiction hein, sur le crack qui s'appelait New Jack City. À l'époque américaine, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec Wesley Snipes, film culte des années 80, avec Ice-T aussi, un rappeur. Enfin bon. Et je me souviens du début du film, ça m'avait marqué, parce que je l'avais revu en rediffusion. Là. Au début, tu as les dealers qui se disent, bon, c'est les années 80, les mesures de Reagan ont fait augmenter la précarité, il y a un gros marché de la drogue à développer, on va s'attaquer à une drogue du pauvre, le crack. C'est comme ça. Et donc là, moi, je pense qu'il y a plein de questionnements à avoir. Il y a, comme tu dis, là, Mourad, il y a une grosse partie des gens qui, leur vie...
Ça somme.
Voilà. Et donc, ils ont besoin de... Et ça, partout où vous avez la misère qui augmente, vous avez une possibilité d'augmentation de la consommation de la drogue du pauvre. Hein, c'est pas pour rien que ça a commencé vraiment dans les dom-toms. Après, t'as la libre circulation en Europe qui fait que maintenant, alors là, tu peux aller te provisionner à peu près partout, ça circule, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, etc. Puis la troisième question, c'est, sommes-nous préparés à ça? On a l'impression que, alors effectivement,
depuis les années 90,
les autorités, mais même effectivement les gens qui suivent ces gens-là, qui veulent casser la dépendance, enfin, est-ce qu'on est préparé à ça, tu vois, pour que le truc ne se développe pas? Et moi, j'ai l'impression que non, on attend que ça se développe massivement, et là, on intervient, on dit mince, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors qu'il faut aller à la source.
Oui, puis il y a une question quand même, c'est est-ce qu'on traque les dealers? Parce que par exemple,
on les traque pas.
Voilà, c'est ça.
Attends, les CRS, je les vois. Hein. Moi, je les vois, les dealers. Moi, je les vois. Je connais même Tonton. Bon, s'il m'entend.
C'est qui, Tonton?
Tonton, c'est un proxénétique.
Un proxénète. Et dealer de crack.
Par contre, je ne parle pas parce que... Non, lui, il n'est que proxénète.
Ah, parce que
mais je vais vous dire la vérité. Au début, je rendais des services aux dealers.
C'est-à-dire?
Donc, je faisais la factrice. Enfin, bref.
Ah bon?
On oublie. Oui. Et de toute façon, c'est prescrit. J'ai plus de 50 ans. Hein. Mais après. Les mecs, ils sont pas fous, tu deviens addict. Et puis, t'as pas de sous. Faut pas oublier que je travaillais pas et tout. Après, faut faire des fellations et tout ça. Et le proxo, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des tentes partout. Les tentes, elles servent qu'à ça. Tu veux ta dose? Tiens, va sous la tente.
Ah oui.
Ah bah oui.
Donc, c'est lié.
Faire une passe.
Prostitution. Bah ouais, mais après, tu te déglingues. Vous savez, personne n'en parle. Mais il y a plein de viols. Il y a plein de morts, qui se passent autour du crack. Mais personne n'en parle parce qu'on se dit,
les dealers, ils sont souvent identifiés à Paris, on dit.
Mais oui.
Mais ils ont une capacité à se reproduire incroyable aussi.
Il y a les mots doux. Mais il n'y a pas que les mots doux. Parce que, il y a pas que les mots doux. Mais moi, en tout cas, je les vois, les mecs, voilà. Mais, voilà. Alors peut-être que les flics ils se disent ouais mais c'est un petit dealer, nous on veut les gros. Mais
ils les attraper en flagrant délit.
Non mais attends, moi je les vois en flagrant délit. Alors d'abord me dire que les flics ils les voient pas. Hein.
Nous sommes avec William qui nous appelle des Alpes-Maritimes, qui veut intervenir dans la discussion. Bonjour William.
Bonjour.
Vous nous avez appelé parce que vous êtes polytoxicomane.
Oui, tout à fait. Bonjour Elena.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Porcher.
Bonjour.
Et bonjour Monsieur le sportif. Voilà. Bonjour à vous. Et ouais, j'ai eu une longue vie donc de polytoxicomanie. Et ce sujet de crack, en vérité, c'est un faux sujet. Parce que il faut savoir qu'on ne tombe pas accro physiquement au crack, comme à la MDMA, aux acides. Voilà. Ce n'est que une dépendance psychologique.
Tout à fait.
Ni plus ni moins. Ah, Elena, merci.
C'est l'héroïne qui est la pire.
Mais pourquoi? Voilà. Parce que le crack, ça rend comment, en fait, le crack? Qu'est-ce que ça provoque comme sensation?
Je vous explique comment le crack est né. Le crack est né parce que, elle est tellement coupée, la coke, que vous avez un produit pur à 65%.
Que seuls les riches pouvaient se procurer.
Exactement, comme nous sur la Côte d'Azur. Elle venait d'Italie. Hein. Et pour la purifier, donc vous la passez à l'ammoniac, et c'est ça qui vous flingue le cerveau. Votre corps fabrique de l'ammoniac par rapport à votre foie, mais quand ça arrive, ça c'est pour les alcoolodépendants, hein, quand l'ammoniac monte au cerveau, ça détruit le cerveau.
Mais William, vous en prenez toujours du crack, là?
Quand on me l'offre.
Mais parce que vous dites, je suis polytoxicomane, oui. je vois sur votre fiche, là, quand vous êtes arrivé sur notre écran d'auditeur, vous travaillez?
Je ne travaille plus actuellement, je suis handicapé.
D'accord. À cause de la drogue, de
non,
ce que vous avez fait?
Non, pas du tout, à cause de l'alcool. Parce que quand j'ai arrêté toutes les drogues, en plus je suis en restauration, donc bon, voilà quoi.
William, c'est Elina, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai que c'est tellement dur de s'arrêter. Personnellement, moi je ne vous cache pas, je suis passé à l'alcool, mais costaud quoi.
Oui,
bon après, je suis passé à un traitement médicamenteux, avec 3 fois par semaine des psychiatres, des addictologues, enfin, mais c'est vrai que vous êtes.
J'ai fait 17 cures.
Vous devenez addict d'autres choses après.
Mais un dérivatif, oui.
Maintenant, on peut dire, les gens qui vont répondre, ils vont dire, Elina, maintenant, elle est addict aux médicaments. Mais moi, je préfère être addict aux médicaments et être aux grandes gueules et faire tout ce que je fais aujourd'hui.
Oui, ben là, je suis très fier de toi, franchement.
Et vous arrivez à vous en sortir, William, ou pas, là, aujourd'hui, vous êtes aidé
J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je suis tout seul dans un studio de 28 mètres carrés, je suis à Payol, quoi, comme on dit chez nous.
Mais tout perdu, c'est-à-dire même l'entourage, la famille.
Ah non, j'ai plus rien.
Ce qui est terrible, c'est avoir cette conscience-là, ce qui est terrible, c'est avoir cette conscience-là du mal qu'on se fait et ne pas réussir à
s'en empêcher. Attendez, le mal que je me fais,
bien.
Il est pas né gratuitement.
Oui, je me doute bien. Il y a une histoire d'ailleurs.
On m'a fait mal, on m'a fait très mal.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Pendant mon enfance, on m'a fait très très mal.
Oui, je me doute qu'il y a une histoire.
Mais William, vous savez, moi qui ai auditionné un certain nombre de personnes, je suis allé sur tous les terrains où les gens prenaient du crack, tous derrière ont des histoires traumatiques, ignobles.
Bien sûr.
Et est-ce que vous a aidé? Est-ce que William, vous avez été vers des centres de désintoxication dans ce parcours?
Je l'ai dit, hein, j'ai fait 17 cures.
17 cures,
j'ai rencontré un professeur formidable. En plus, pendant la séance, une aide-soignante, je voulais prendre la parole inopportunément et m'a demandé de me taire. Et le professeur, grâce à lui, m'a laissé m'exprimer. Ouais. Il m'a dit, monsieur Wartel, ah merde, j'ai dit mon nom.
Ah, c'est pas, on l'a pas entendu.
Moi aussi, je m'en fous. Il m'a dit, mais bravo, bonne analyse, parce qu'on était entouré d'une vingtaine de cas comme le mien, et eux étaient dans le déni.
Vous avez quel âge,
mais on soigne pas le mal par le mal. Hein.
Vous avez quel âge, William?
51 ans.
Ouais.
Vous êtes plus jeune que moi.
Bah oui, je suis un branleur.
Mais vous allez vous en sortir comme Elina.
Oui.
Bah disons que bon, le diabète s'est installé et malheureusement ça, c'est ce qui me fout en l'air parce que sinon je serais en train de travailler.
Vous avez quoi comme ressources aujourd'hui, William?
Là, pour l'instant, jusqu'au mois de mars, j'ai la hache à 900 balles quoi.
L'allocation handicapée, ouais.
Ouais, mais là, ils me redemandent un renouvellement et je sais pas si ça va passer, ça m'étonnerait qu'ils passent parce qu'ils ont plus de ronds.
Bah écoutez, on peut vous mettre en contact avec Elina.
Tout
Elina,
à fait.
C'est OK.
Après l'émission, vous me donnez
après
son numéro.
Après l'émission, parce que Elina travaille encore beaucoup avec des gens comme vous, William, si elle peut vous donner un petit coup de main, voilà. Vous aider. Je suis sûr qu'Elina le fera volontiers.
Je le ferai avec plaisir, William.
Merci d'avoir été avec nous. On continue notre discussion là sur le crack, le nouveau fléau dans nos villes.
C'est bien qu'on nous appelle de ces villes justement.
Oui.
C'est un vrai tour de France là du crack là qui s'installe. C'est Lille, Bordeaux, Rennes, Perpignan, Compiègne, Niort, Mâcon, Orléans. À tout de suite au 32-16 avec les GG.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée. Nous sommes avec Elina Dumont, intervenante sociale. C'est Thomas Porcher, professeur d'économie, qui nous accompagne. Bon, on voulait dans les GG vous parler du crack parce qu'on a découvert ces jours-ci que ce n'était pas circonscrit à Paris. Le crack est à la porte de la Villette et à la porte de la Chapelle et à ce qu'on appelle le jardin des Halles. Mais qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'étendait. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup, en fait, des interventions, des opérations coup de poing menées par le ministre de l'Intérieur. Et moi, je suis allé un peu regarder sur les réseaux sociaux et je voyais des poches maintenant qui s'installent dans les villes, qui sont devenues des vrais points de deal pour aller chercher sa cam, pour aller chercher le crack. Des riverains qui commencent à être excédés. Je voyais du côté d'Orléans, je voyais du côté de Perpignan. Alors, ce sont des poches qui sont très très isolées. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met en place hormis les actions coup de poing? Parce que les actions coup de poing, finalement, tu dégages les dealers, mais 4-5 jours après, une semaine après, même moins d'ailleurs, tu les retrouves à un autre endroit. Puis maintenant, avec les portables, rapidement, tu sais ce qui se passe. Il n'y a pas de travail de prise en charge et de prise en main.
Entre Paris et toutes les autres villes de province, voire Bruxelles, parce que je travaille aussi pour Bruxelles, c'est que les camps, il n'existe pas des camps comme la colline de la Chapelle, parce que les gens, ils cuisinent eux-mêmes. Alors, je n'ai pas expliqué ici comment on cuisine. Tu vois, il suffit d'une petite cuillère et tu fais ta cuisine, quoi. Et je voulais vous dire, il y a un copain qui s'appelle Bertrand, il vit dans un bourg à Beille, un bourg à côté de Lorient, il en trouve du caillou.
Donc il y en a partout maintenant.
Donc il y en a partout, quoi. Non, mais en fait, c'est très compliqué parce que là, au moins avec les camps, on sait où ils sont. Mais en province, bon, à part que à Rennes, il y a de plus en plus de sans-abri, à Nantes aussi, à Lille aussi. Donc, à un moment donné, des camps vont se former. Mais avant qu'ils se forment, il faudrait peut-être mettre en place quelque chose, quoi, je sais pas.
Bah, tu parlais de la Bretagne, c'est Paul qui nous appelle de Saint-Brieuc. Bonjour, Paul.
Super.
Bonjour.
Bonjour, Paul. Vous nous appelez parce que vous vouliez témoigner. On dit les choses franchement, Paul. Vous êtes dealer. Carrément. Vous êtes dealer
non,
de crack.
Non, dealer, pas que, quoi. Je travaille aussi, c'est pour mettre les choses... C'est pour préciser quelques petites choses, en fait. On parle de crack depuis tout à l'heure et il y a une différence entre le crack et la freebase. Les gens ne consomment pas que du crack. Le crack, c'est à Paris. En province, c'est de la freebase et ça coûte très cher. C'est de la cocaïne, en fait. Donc, le prix au gramme est très cher. Et il n'y a pas qu'à Paris, en fait, où il y a de la cocaïne. Il y en a partout, effectivement. Depuis 2008, ça a augmenté. Les consommations ont augmenté. La production a augmenté. Il y a de la cocaïne partout. Et effectivement, de plus en plus jeunes, on fume la cocaïne sans savoir que c'est du crack, que c'est de la freebase. On la consomme de cette manière de plus en plus et c'est une catastrophe, ouais.
Mais ce que vous appelez freebase, c'est quoi?
Attends, dealer, parce que Alain, tu l'as présenté comme dealer, comme si c'était, je comprends pas, vous vendez de la drogue?
Je vends. Ça m'arrive, je vends.
Et vous en êtes fier?
Non, du tout. J'appelle pour une précision, c'est pas une fierté, quoi. Je consomme moi aussi, en fait, c'est pour soutenir mes consommations. Et sans... enfin, voilà, je suis pas là pour me faire juger en même temps. Je suis pour apporter des précisions. Et...
enfin, on a le droit aussi d'avoir un avis sur le fait de vendre de la drogue.
Je travaille aussi, c'est pour dire justement que tous les gens que je connais qui consomment travaillent. Il n'y a pas que
oui, mais vous dites que je vends de la drogue pour pouvoir consommer. Donc, visiblement, le travail ne suffit pas.
Non, bah non, ça coûte très cher.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis cadre, j'ai un statut cadre.
Mais qu'est-ce que vous, pourquoi vous en prenez?
Mais c'est parce que j'ai une addiction, parce que je suis
addict. Il est cadre.
Je suis toxicomane en fait. Voilà.
Ah, voilà.
Alors c'est apparu comment?
Il y a le dealer et puis il y a le fournisseur qui est au-dessus quand même.
Je suis là, c'est apparu depuis longtemps. Et puis il y a toutes les livraisons maintenant en fait. On ne fait pas que aller sur un site en fait. Matériellement se déplacer quelque part. La
drogue, combien vous dépensez par jour pour votre drogue?
150-200 euros au jour.
Par jour.
Paul, expliquez pour nos téléspectateurs qu'est-ce que ça veut dire freebase. Moi, je sais, mais je vous laisse expliquer.
La freebase, c'est quand on achète de la cocaïne et c'est quand on la ramène à l'état de caillou pour pouvoir la fumer.
C'est du crack.
C'est du crack,
désolé.
De qualité
et pour faire plus de quantité,
en fait.
Peut-être aussi.
Non, c'est du crack de qualité supérieure.
D'accord.
En fait.
Mais expliquez-moi, vous vivez en Bretagne, c'est ça?
C'est ça.
Et ça se développe de plus en plus?
Depuis longtemps, en fait. Ça, c'est pas nouveau, en fait.
Comment vous l'expliquez?
Il y en a partout. Mais parce qu'il y a une production de cocaïne, enfin, c'est énorme, même dans le monde, en fait.
Oui.
La production de cocaïne c'est exponentielle, en fait.
Et ça continue, demande, ça.
Physiquement, vous arrivez quand même à avoir une vie sociale, puisque vous travaillez.
Bien sûr.
Et puis, il s'exprime correctement. Hein, donc,
tous les jours, vous consommez de la drogue, alors?
Oui.
Ouais,
vous êtes marié, vous avez des enfants?
Des enfants, oui.
Et vos dents?
Vous avez déjà essayé d'arrêter ou pas du tout?
Bien sûr, j'ai fait des cures.
Il a fait
parce que, pardon, vous dites effectivement 150
cures,
à 200
cures,
par mois.
Des cures longue durée, hein, pas parce que vous proposez des cures et de l'État, là, c'est 15 jours à Messine.
On vous tient un peu au téléphone pour que la police puisse vous localiser.
Ah, il rigole.
Non, 150 à 200 par mois, ça fait du 5000 par. Enfin, 150 à 200 par jour, ça fait du 5000 par mois.
Ah oui, ça fait du 5000 par mois.
Donc, effectivement, il faut beaucoup d'argent.
Et Paul, vos dents, elles sont dans quel état?
Très bien, justement. On n'est pas tous. Moi, j'ai pas de problème d'alcool. On n'est pas tous.
Excusez-moi, le crack et les dents, ça va pas ensemble.
Ouais, mais je me lave bien les dents. Non, vraiment. Ah. Et moi, tous ceux que je connais ont tous une allure très correcte.
Ça fait quoi comme sensation, le crack?
On n'est pas tous à l'effet de zombie, en fait. Le crack, en fait, c'est une sensation dégueulasse, un peu presque. Hein. C'est comme dit tout le monde, c'est une sensation qu'on a aimée un jour et qu'on recherchera toujours, mais qu'on ne trouvera plus jamais, en fait. C'est une sensation de frustration plutôt qu'autre chose, en fait. C'est pas super agréable.
Mais ça vous donne quoi? Ça donne la pêche? Ça vous désinhibe?
Ça fait une petite transpiration qui dure quelques temps, en fait, qui dure 5, 10, 15 secondes, où on se sent effectivement ailleurs, léger, et puis qui est suivi tout de suite derrière par un craving, par un manque intense, quelque chose on a envie d'en reprendre tout le temps. Et ouais. Il y a ce craving qui est dur à passer, quoi.
Mais Paul, physiquement, vous êtes comment? Vous n'avez pas de problème de santé? Vous pouvez.
Moi, je suis baisé, moi.
Vous êtes baisé?
Non, je suis bien, ça va.
Oui, mais vous avez quel âge?
42 ans.
Oui, je suis baisé, quoi. Donc,
BG, c'est beau gosse.
Oui, d'accord.
Ouais,
Mais Paul,
vous consommez à ce rythme-là?
Pardon?
Ça fait combien de temps que vous consommez à ce rythme-là? C'est pas indiscret.
À ce rythme-là, vraiment? Moi, j'ai commencé la drogue très tôt, mais à ce rythme-là, ça fait 15 ans, quoi.
Ah ouais. Paul, par contre, moi, je suis là aussi pour faire de la prévention.
Oui,
on n'est pas là non plus.
Fait, hein.
Moi, je suis ravi que vous soyez au téléphone.
C'est de la merde, hein, que.
Non, mais Paul. Moi, j'ai adoré le crack. Alors, je vais vous dire la vérité.
Il y a un gros problème en France. Et effectivement, il n'y a pas les moyens de lutter contre ça. Je sais pas. C'est.
On peut rien faire. Si vous arrêtez de consommer, vous arrêtez de vendre demain?
Bien sûr, mais c'est mon but, le but de tout toxicomane comme
moi. Non, mais c'est un revendeur quelque part.
On n'est pas fiers de continuer, quoi. Moi, je suis pas fier de me droguer.
Mais Paul, moi, je suis là pour faire aussi de la prévention. Et je voudrais vous le dire, je suis sûr que vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Une seule prise de cocaïne peut provoquer une crise cardiaque.
J'ai fait des OD de cocaïne. Ça, pareil, effectivement, quand on parle d'OD de cocaïne, on fait pas d'overdose de cocaïne, mais bien sûr que si. Le cœur s'arrête avec la cocaïne.
Ouais.
Ben, on fait des OD de cocaïne. Mais après, dans la prévention en France, on est rendu, par exemple, dans les médecines du travail, dans la sécu, on est toujours en train de parler de l'alcool au travail. On parle très peu de la drogue, alors que ça a déjà envahi la société.
Vous avez raison.
Et on en parle très peu, quoi.
Et c'est pour ça, c'est ce que je disais, Paul, c'est qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est. On parle que des actions coup de poing policières, mais c'est un phénomène qui n'est pas pris en compte sociétalement. Au sens de, il y a une vraie prise en charge de milliers de personnes aujourd'hui à avoir.
Demandez aux policiers, on a les contrôles d'alcool au volant ou de drogue.
J'ai fait des cures.
La part drogue est en train d'exploser.
Oui, mais il devrait communiquer
maintenant. Il a fait des cures pour l'alcool.
C'est que du répressif.
Il faut sortir d'une hypocrisie.
Non, le problème, Étienne Liebig l'a souvent dit. L'alcool, c'est autorisé. Donc, on peut faire des campagnes de prévention.
Tout à fait.
Ouais, le crack, c'est interdit. Donc, l'État ne fait pas de campagne de prévention puisque le produit est censé être interdit. Donc, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est là. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement, faire des campagnes de prévention, notamment auprès des jeunes, etc., sur le crack, sur toutes ces drogues.
Il faudrait pas le nier.
Je suis d'accord.
Non, mais, Olivier. Tu crois que j'ai attendu l'État, moi, clandestinement, je le fais les directeurs qui veulent bien de moi, à l'éducation nationale, évidemment, je vais pas citer les écoles. Et vous savez, quand je dis aux gamins, vous savez, j'avais plus de dents et mes dents, elles étaient toutes marron, je peux vous assurer que les gamins, ils flippent.
Paul, merci de votre témoignage. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de vous en sortir.
Black Friday ou pas?
Bien sûr, d'arrêter, bien sûr. Et on souhaite à tout le monde de jamais commencer, en fait.
Vous voulez qu'on vous mette en rapport avec Elina aussi, si vous pouvez dialoguer, si elle peut vous donner des aider, si elle peut vous aider,
ouais, je sais pas. Si elle veut un jour, là je vais prendre la route, mais en fait, mais oui, mon numéro.
Moi, je veux bien parler avec vous, hein.
Ouais.
Mais là, par exemple, vous nous parlez, vous avez déjà consommé, Paul?
Mais oui, dès le matin, on consomme.
Mais surtout, vous ne me proposez pas de cailloux, hein.
On diabolise l'héroïne. Moi, j'ai jamais vu autant de gens avoir de problèmes que dans le crack, que dans l'héroïne.
Mais c'est une question peut-être stupide.
C'est
combien de fois par jour que vous en prenez?
De quoi?
Du crack.
Le crack, c'est variable, quoi. C'est 1 ou 2 grammes. C'est surtout le soir, ça empêche de dormir. On a une vie de malade avec le crack. On mange plus, une cata.
Ça veut dire, et par exemple, là, aujourd'hui, là, vous en avez pris de combien de fois, là, depuis ce matin?
Là, j'ai pris hier soir, en fait. Ce matin, j'ai pas pris.
D'accord.
Là, j'ai pris l'héroïne.
Et là, cet après-midi, là, vous savez à quelle heure vous allez en prendre?
À la maison, ouais, en se posant avec des amis, bien sûr, ça va être dans la soirée.
Ouais, peut-être un petit match avec un petit peu d'héroïne, ça va être sympa.
Ouais, un speedball, hein.
Ouf.
Ouais, bon courage.
Speedball,
bon,
c'est héroïne, cocaïne, ouais. Speedball aussi.
Bon courage à vous, Paul.
Ouais, ouais. Merci,
bon
Paul. Mais surtout, en tout cas,
pas question d'analyser.
Voilà, c'est que vous vous en sortiez. Et voilà, c'est là la responsabilité des pouvoirs publics aujourd'hui. C'est pas uniquement être dans le volet répressif. Mourad Boudjelal. Et dans le sport aussi. Dans le sport, il y a un non-dit, il y a un tabou dans le sport.
Bien sûr. Mais moi, je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Olivier. Il y a cette espèce de dire, comme c'est interdit, on n'en parle pas. Mais je pense que des campagnes de prévention, que l'État regarde la réalité en face, quoi. Et qu'une campagne de prévention, ça serait pas inutile.
Et qu'on en parle, oui.
Enfin, on en parle, oui, qu'on en parle. Sinon, c'est une réalité.
Comme le dit Alain, on en parle uniquement lorsqu'on dégage les gens porte de la chapelle. Mais on parle pas précisément du phénomène.
Tu vois, on a fait un état des lieux du phénomène. On sait combien de Français fument du cannabis, et puis finalement, tout le monde s'est
déjà, accoutumé. Simplement, le fait de savoir que la France serait l'un des pays les plus consommateurs de cannabis. On peut imaginer que si on consomme beaucoup de cannabis, on doit aussi être l'un des pays les plus consommateurs de crack et d'autres drogues. Je vois pas là. Donc, il faudrait quand même se poser des questions. Pourquoi en France? Et ça, c'est, dans la campagne présidentielle, vous avez entendu un candidat, à en parler, non?
Surtout qu'aujourd'hui,
par exemple, c'était un bon sujet.
Surtout qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça touche des villes où tu te dis, bon, même si la drogue est partout, mais pourquoi est-ce que le fléau aujourd'hui dans des villes, des petites villes, des villes moyennes, quelle est l'ampleur du phénomène? Où est-ce qu'on installe des structures? Quelles structures on installe? Quels moyens on met? Parce que tu vois, la psychiatrie est aujourd'hui devenue le parent pauvre complètement de la société. Il y a quasiment plus d'unités psychiatriques.
Il faut
pour sortir les gens de la drogue, on a besoin de ces unités.
Il y a aussi quand même le volet business et délinquance. Je vous conseille d'ailleurs de lire cette semaine le point sur les nouveaux narco-trafiquants sont sans scrupules, qui gagnent des fortunes. Et sincèrement, quand on lit ce dossier, on se dit la bataille est perdue parce que ce sont eux les boss. Eux les boss.
Ça serait bien de faire comme les cigarettes, de montrer à nos gamins le crack, l'héroïne, la cocaïne, comment on devient. Comment on devient, qu'il le voit, qu'il le visualise plutôt qu'il l'idéalise. Aujourd'hui, la cocaïne a l'image de la drogue qui rend créatif.
Bien sûr.
Alors que c'est
dans le cinéma, etc.
Bien sûr. Il faut montrer la réalité de
ces saloperies. On a fait la même chose aujourd'hui.
Quitte à avoir des images très dures.
Et les dealers. Oui, mais les dealers ont été un peu idéalisés aussi, si tu veux, dans certains films.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont riches.
Avec des baraques énormes, immenses, du pognon en veux-tu, en voilà. Toutes les stars qui viennent les voir.
Voilà, c'est ça.
Oui, Pablo Escobar.
Il y a peut-être un imaginaire à renverser aujourd'hui.
Il y a eu des séries qui ont starifié tous ces gens-là.
Ouais.
Allez, dans un instant, merci en tout cas de tous vos témoignages qu'on a eu au 32.
On a eu 2 témoignages très forts.
Dans un instant, RMC avec les indiscrets politiques, le soutien des élus républicains à Bruno Retailleau. Il y a toute une espèce de petite machine Retailleau qui se met en place en coulisses avant le vote pour la présidence des républicains. On vous raconte tout ça.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules tous les jours avec vous. Il est 11h moins le quart. Vous avez déjà la première heure des grandes gueules à votre disposition hein, sur les podcasts, sur notre appli RMC.
Vous avez aussi une version qu'avec mes interventions, c'est-à-dire les nécessaires. Quoi.
Les meilleurs.
Vous, les meilleurs ouais.
Elle est beaucoup plus courte. Elle fait 40 secondes, hein, celle-là. Et c'est sur rmc.fr ou sur l'appli RMC. Mourad Boudjelal, Elina Dumont, Thomas Porcher qui sont avec nous et avec vous aujourd'hui. On y va maintenant pour les indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Oui, c'est le retour des indiscrets du service politique d'RMC avec Romain Cluzel aujourd'hui. Bonjour Romain.
Bonjour Alain et bonjour les grandes gueules.
On va
bonjour.
S'intéresser à ce qui se passe chez les Républicains puisque bientôt c'est le vote pour choisir le nouveau président. Et alors, c'est toute la logistique des pro-Retailleau qui se met en branle.
Oui, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, est perçu comme le challenger face à Éric Ciotti. Mais ses soutiens veulent tout faire pour instiller l'idée d'une dynamique derrière leur candidat. Dernier élément en date, cette nouvelle consultation maison de l'ex-député Julien Aubert que nous vous dévoilons ce matin. Près de 46% des personnes interrogées comptent voter Retailleau la semaine prochaine contre 34% pour Éric Ciotti. Et au second tour, le Vendéen l'emporterait largement contre le Niçois à 56%. Alors c'est la quatrième fois que cette consultation interne a lieu. Les scores de la mi-novembre sont équivalents, mais pour les pro-Retailleau, c'est surtout le signe d'une inversion de la tendance par rapport à la rentrée quand Éric Ciotti était en tête dans les premières vagues de cette consultation. Il est incontestable qu'Éric Ciotti a perdu du terrain et qu'il y a une dynamique derrière nous, insiste un proche du sénateur. Pourtant, toujours selon cette consultation, Éric Ciotti est celui qui a le mieux réussi le débat télévisé de lundi, mais cela n'empêche pas Bruno Retailleau de virer en tête. Alors ce sondage interne, il est à prendre avec des pincettes. Seulement 1800 adhérents LR ont répondu et son initiateur a apporté son soutien aux Vendéens. Julien Aubert a beau défendre la représentativité de son échantillon, les équipes des autres candidats balayent d'un revers de main ces résultats absolument pas fiables selon eux.
Autre carte jouée par les pro-Retailleau, c'est la carte du candidat seul contre tous.
Oui, son équipe en est persuadée. Aurélien Pradier et Éric Ciotti se sont alliés contre Bruno Retailleau. La preuve, avec les attaques contre le Vendéen lors du débat télévisé lundi, c'est un euphémisme de dire que c'était du 2 contre 1, s'agace un proche de Retailleau. Nouvelle preuve selon eux, avec une réunion publique en Seine-et-Marne la semaine prochaine, en présence d'Aurélien Pradier et d'Éric Ciotti, mais sans le sénateur. C'est le mariage de la carpe et du lapin, dénonce un proche de Bruno Retailleau qui voit un signe de fébrilité et de possible retournement de situation. Il n'y a aucun deal, démentent catégoriquement les pro-Pradier et les pro-Ciotti, d'autant que ces derniers affirment toujours viser une victoire dès le premier tour samedi prochain. La fébrilité, elle est plutôt chez Retailleau qui a peur de voir Aurélien Pradier le rattraper, rétorque un ciotiste. Les proches de Bruno Retailleau font feu de tout bois avec une seule ligne rouge, ne pas attaquer Éric Ciotti sur les affaires révélées ces derniers jours et l'enquête contre le cumul d'emplois de son ex-épouse, histoire de ne pas compromettre la réconciliation, de pouvoir travailler à nouveau ensemble après le vote, surtout si Éric Ciotti gagne finalement cette élection.
La bataille chez les Républicains, est-ce que ça vous intéresse ou pas ce qui se passe? Non, très franchement.
Ouais, savoir qui c'est qui va enterrer les Républicains, c'est pas curiosité. Mais je pense que Retailleau a le profil
tu
de
crois
l'emploi. Après, c'est moi, Retailleau, faut pas oublier que c'est sens commun, quoi. C'est voilà, donc je pense que c'est une passerelle avec l'extrême droite qui est en train de
se mettre en place.
Qui est en train de se mettre. Oui, chez les deux. Ciotti aussi. C'est une passerelle, mais bon, voilà, c'est la fin. De toute façon, c'est savoir qui perdra la prochaine présidentielle. Voilà.
Alors que je comprends pas, il y avait quand même d'autres.
Il y avait des candidats de meilleure qualité.
Bisnard,
qui est de très grande qualité.
Il est dynamique, il aurait pu donner un nouveau souffle aux Républicains. Même Aubert, à sa manière, moins que David Bisnard. Mais de quelque part, il aurait pu aussi. Il est plus jeune. Pourquoi ils ont pris comme ça deux
Parce que c'est pas là que ça se joue, moi je pense. Parce que la présidence du parti, les présidentiables pensent que ce n'est plus un tremplin.
D'ailleurs,
quand tu prends le parti, tu y penses. Il te dit j'ai 2-3 ans pour installer mon image.
Mais je pense que eux, ils y pensent. Ouais, mais je pense que les présidentiables qu'on cite dans la presse comme Laurent Wauquiez ou Xavier Bertrand ou d'autres pensent que c'était pas le bon parcours, qu'il fallait pas passer par la case.
Ils vont quand même donner la tendance du parti. C'est important.
Enfin, juste pour dire un mot, ça m'intéresse pas du tout.
Oui, mais je pense que beaucoup de Français sont comme toi.
Oui. Ah bah, il y a pas un suspense. Oui, je pense que
c'est pas là que ça se passe en ce moment.
C'est pas l'affaire du siècle.
Peut-être dans 4 ans.
Et puis, il faut réaliser que les Républicains, ils ont énormément perdu en nombre d'adhérents. Aujourd'hui, ils sont 80 000. Oui. L'an dernier pour le Congrès, ils étaient autour de 140 000, donc ils ont pratiquement perdu.
Et puis, il y a moitié de leur. Macron va tous les récupérer quasiment, je pense là.
Ouais,
comme il
fait. Oui, puis peut-être que les vrais candidats de droite sont pas là. C'est Édouard Philippe, c'est Bruno Le Maire, c'est Gérald Darmanin.
C'est ça, oui, c'est ça.
Oui, mais t'as quand même besoin d'une écurie derrière. Ouais. Si tu veux,
bah
si
ça c'était pas LR.
Là, c'est les Républicains B, c'est l'équipe B, quoi.
La force des Républicains, c'est encore leurs élus locaux.
Oui, c'est vrai, ils ont encore un tissu
assez costaud.
D'où la figure de David Lisnard, qui est le représentant des maires.
Oui, mais c'est intéressant de voir que David Lisnard pense qu'il faut mieux être président des maires de France que président des Républicains pour asseoir cette espèce de notoriété, de notoriété.
Ouais, mais tu vois, à l'époque, c'était, tu vois, à l'époque de Sarkozy, c'était vraiment des problématiques différentes, hein. Tu sais, on le voit bien quand Sarkozy, il devait quitter le ministère pour prendre la tête des Républicains. Il y avait sa femme dans le film.
C'était l'UMP à l'époque.
Il ne voulait pas, etc. Et lui, il dit si, si, il faut que j'ai le parti avec moi pour gagner, etc.
C'est la machine de guerre.
Oui, mais ça, c'est fini, ça. La machine de guerre, tu l'as construit en 2 minutes. Regardez Macron. Il est arrivé, il a construit une machine de guerre en 2 mois et il a été élu.
C'est clair.
Merci, monsieur Romain Cluzel. Bon week-end, Romain, à lundi pour de nouveaux indiscrets politiques. C'est l'heure du quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent. Quiz des grandes gueules.
Fais le malin, Louis Gerbier a essayé d'arriver en moonwalk, tu vas voir hein, comment ça va se terminer. Bonjour Louis.
Ça va pas du tout. Comment ça va? Moi ça va très bien parce que ce soir je suis en vacances. Voilà.
En vacances
déjà?
Ouais, en vacances.
Comme ça au mois de novembre.
Bah ouais.
Et t'as un chewing-gum dans ta bouche ou quoi?
Non, pas du tout, il a quand même, c'est pas mon genre.
Alors,
on va faire un jeu, on va faire une charade pour trouver le thème du quiz. Mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est un pâté cuit dans un récipient en terre. Et mon tout célèbre sa fête aujourd'hui.
Black Friday.
C'est un prénom qu'on cherche.
Quelque chose.
Catherine. On l'a en régie. Bravo, Olivier.
Catherine.
Allez, Catherine, quiz spécial. Catherine.
J'adore.
Qu'est-ce que t'as dans la bouche?
C'est Anaïs qui m'a filé un
bébé. Mais pourquoi vous lui filez un truc avant qu'il vienne à l'antenne, Anaïs Sainz?
T'en bouge pas.
Je savais bien.
Carton jaune pour Anaïs Sainz.
Attends, moi j'ai dit au gamin.
C'est pas très sympa de balancer ta copine.
Carton jaune aussi.
Attends, tradition française, un peu de délation, merde.
Allez, vas-y.
Un petit blind test film. On va chercher des Catherine dans des films. Si vous trouvez la Catherine, c'est 1 point. Si vous trouvez la Catherine et le film, c'est 2 points. Attention, premier extrait, c'est parti.
Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Catherine Deneuve.
Pourtant, hier, je disais que c'était une joie.
Non, la sirène, c'est la sirène du Missy.
C'est une joie et une souffrance.
Oh là là là.
De François Truffaut.
Il y avait juste l'actrice et le film. Bravo.
Mais Olivier.
2 points pour Olivier. Deuxième extrait.
Je n'écris jamais. Car si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas
t'entends
de place.
Rien. N'entends rien.
Ah,
franchement, ma vie avant de vous connaître, je la trouvais souvent moche. Puis un jour, je vous ai lu.
Vous connaissez
pas? Ah si, c'est Catherine.
Ouais, c'est Catherine.
C'est Catherine, oui.
Toute Catherine Fro-Fro.
Oui, exactement. Dans
Alors, c'est lequel?
Éric Emmanuel Schmitt.
Odette Tout le Monde.
Ah, allez, on va. Ouais. Alain et Olivier. Les grandes gueules, vous avez le droit de jouer aussi.
Si.
Je rigole.
Non, après, tu feras un quiz Rocco, tu verras quand on sera bien.
Troisième extrait.
Et dis donc, quelle histoire. Hein. Ça, c'est le mal du siècle, hein. L'alcoolisme. Et le pire, c'est que lui, il n'était jamais sous. Hein.
Ah, je la connais.
Moi, de verre.
Elle est costaud, elle est ronde.
Vas-y.
Avec des cheveux.
Oui, il a des cheveux. Ouais, des cheveux.
Catherine Fro.
Non,
Catherine
Jacob.
Vas-y,
Jacob.
Catherine Jacob. Elle s'appelle Catherine et elle a des cheveux. En effet, c'est Catherine Jacob.
C'était un bon indice. Ouais. Et le film?
Et le film, quand même.
C'est pas la vie d'un flouchant.
Non, film mythique. François Damiens, Marion Cotillard, Mélanie Laurent.
Ah oui, je me souviens de ce film.
Tu sors ou je te sors?
Ouais.
Dick Neck.
Ouais, on m'a soufflé en régie.
Ah.
Oui, mais arrêtez de nous souffler parce que sinon c'est pas bien.
Ah, c'est vrai qu'il y a une oreillette.
Non, c'est la première fois qu'on l'a fait. Non. J'enlève mon oreillette.
Tout le monde se balance entre.
Et
l'émission de la. Je me mets un carton jaune.
Et quatrième extrait, là c'est plus une actrice, mais on touche au sublime, peut-être la meilleure humoriste de France. On écoute, c'était sur BFM TV cette année.
Bonjour madame, quel est le climat en arrivant à Kiev?
Ah, la ministre, oui.
Il fait beau?
Catherine Colonna.
Il fait bon.
Quel climat en arrivant à Kiev.
Il fait plutôt bon.
Elle a répondu au premier degré.
Premier degré, une question qui était un petit peu plus diplomatique.
C'était mythique.
Bon, on termine le quiz là-dessus, sur ce coup de génie. Ouais. Et donc, comme je vous le disais, pour moi, c'est les vacances, ce
alors,
soir.
Alors, attends, quand même, là, comme c'est Catherine, ma mère s'appelle Catherine.
Ah, bah, on l'embrasse.
Je lui souhaite bonne fête. Surtout qu'elle m'a aidé ces derniers jours, comme mon fils était malade. Donc, on l'embrasse.
Dans ces cas-là, c'est maman, est-ce que tu peux venir à la maison? Le petit est malade.
Oui, là, je l'ai quand même gardé. Il a eu un virus, je sais pas ce qu'il y avait. Bon, c'est pas le Covid. 4 jours, il était à la maison. Bon, j'avais des déplacements. Elle est venue. Heureusement qu'elle était là. Donc, bonne fête à ma maman, Catherine.
Bonne fête à Catherine Porcher.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'elle est avec mon père.
Bonne fête à Catherine.
Il y a des chances.
C'est fini? Oui, mais attends, je voulais quand même finir avec ce son de Philippe Catherine.
Non, je ne veux plus jamais travailler.
Parce que moi, je me barre en vacances, donc j'ai pu bosser, je vous le dis. Pas à lundi et bon courage à vous. Bon week-end.
Merci, monsieur Louis.
Salut. Ciao.
La suite des réjouissances dans les GG, dans les grandes gueules. Le à vous de choisir. Les comptes de campagne Emmanuel Macron avec McKinsey qui aurait peut-être fourni des petites mains, qui aurait donné des coups de main. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Est-ce que c'est un scandale d'État? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ou vous préférez que l'on parle de l'entrée de l'IVG dans la Constitution? Ça a été voté à l'Assemblée. C'est au 32-16 que ça se passe pour en parler. Mais d'abord, vous votez sur internet rmc.fr. Et puis à 11h20, on aura un GG 7 et match sur les droits de succession. C'est une proposition récurrente. Tiens, en ce moment, d'Éric Ciotti qui brigue la présidence des Républicains. Faut-il, oui ou non, supprimer les droits de succession? On a une équipe, oui, avec Mourad et Olivier. Une équipe, non, avec Thomas et avec Elina. Et c'est vous qui venez départager tout ce beau monde au 32-16, bien sûr. La troisième heure des Grandes Gueules arrive. À tout de suite.
Tu vas la fermer.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.